Tech & Co Business sur BFM Business.
Allez, notre premier invité, Eric Marquiol. Bonjour Eric.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes vice-président Métaverse Industrie du groupe Renault. On va parler avec vous notamment de ce partenariat que vous avez signé avec un autre Français, Wondercraft, avec des robots que vous allez introduire dans les ateliers, les usines Renault, les centres de production. Nous sommes ici, alors je le rappelle, on est à Lille, c'est le grand sommet de l'IA. Et justement, on parle de l'IA, la transformation de l'IA alors dans notre monde au quotidien, mais aussi cette transformation de l'IA dans le monde de la révolution. D'ailleurs, Eric, vous participez à une table ronde l'IA révolution industrielle. Eric, quelques mots juste pour définir vice-président Métaverse Industrie du groupe Renault, ça signifie quoi? Vous travaillez sur quel sujet?
Alors, donc c'est tout ce qui est sur le périmètre de l'ensemble de nos usines, nos 19 sites sur toute la planète, toute la partie supply chain, le process engineering, et j'ai aussi les activités qualité, la transformation digitale dans l'ensemble de ces fonctions. Donc on va retrouver tout ce qui est utilisation de la donnée dans nos usines pour la maintenance prédictive, pour l'optimisation de la qualité, pour les consommations d'énergie, et également tout ce qui est robotique, avec depuis 2 ans vraiment un changement radical avec l'arrivée de l'IA physique.
Voilà, c'est vraiment l'effet de cette arrivée d'IA hein, qui a accéléré cette robotique, parce que c'est vrai. Alors, ce qu'on voit souvent, évidemment, c'est la robotique humanoïde, hein, c'est celle qui nous impressionne le plus. Alors, voilà, télécommandée, enfin, il y a pas mal de choses, ces vidéos qui circulent. Là, on est vraiment dans la production pure et dure, on est dans du début de passage à l'échelle dans des usines. Et pour vous, c'est ce qui change, c'est cette physical AI, c'est vraiment ça qui a donné le coup de pouce pour
cette capacité pour finalement de mettre dans des robots une intelligence qui va être capable de s'adapter et de réagir et d'accomplir des missions qui ont été attribuées avec une capacité de programmation, une capacité de réaction complètement différente. Et se rajoute à ça une capacité aussi d'équilibre, d'où le avec des mouvements type de jambes qui était complètement impossible par le passé.
Oui, parce que ça c'est des choses que nous on fait tout à fait naturellement, de se tenir sur nos jambes, mais pour un robot c'est des calculs derrière, même quand il est immobile. Alors racontez-nous, comment est né ce partenariat avec Wondercraft et aujourd'hui voilà comment vous allez peu à peu l'intégrer dans vos chaînes de production?
Alors,
chez Renault,
en fait on cherchait, parce que on a 11 000 robots industriels hein, chez Renault.
Oui.
Des AGV, enfin les Automated Guided Vehicles sur l'ensemble de nos chaînes, on a quasiment le même nombre. Donc c'est vraiment un axe très important pour nous de garder cette compétitivité opérationnelle. Donc on cherchait à trouver un partenaire de bon niveau en Europe. Et donc il y a eu cette rencontre avec les équipes de Wondercraft qui étaient dans un domaine apparemment très éloigné de nous.
Juste hein. La santé.
Exactement, la santé.
Parce que l'idée de Jean-Louis Constanza au début, voilà, c'était il avait une aventure personnelle qui a fait qu'il s'est penché beaucoup plus sur ce sujet-là dès le départ.
C'est ça. Et en fait, la technologie, les moteurs, la mécatronique, les algorithmes utilisés pour faire des exosquelettes, pour faire marcher des personnes paraplégiques, c'est exactement la même de celle nécessaire pour faire les robots de nouvelle génération. On préfère dire robots de nouvelle génération que le robot humanoïde.
Au début, vous avez imaginé d'abord des exosquelettes ou vous êtes tout de suite dit non, il faut qu'on déporte ça vers
robots? On était vraiment directement dans le sujet avec Jean-Louis et ses deux cofondateurs en disant il faut vraiment qu'on aille dans ce domaine-là. La rupture, elle est dans ce domaine-là.
On va reparler technologie dans un instant. Comment il y a quand même un côté acceptation sociale, parce que là, j'imagine qu'au début, dire voilà, c'est des robots qui vont faire des tâches que des humains faisaient auparavant.
Ouais.
Il faut le faire accepter, même si c'est des tâches dures, difficiles, rébarbatives. Enfin voilà, expliquez-nous voilà cette première étape.
La première étape, c'est vraiment la mise en place dans nos usines. Donc là, depuis le mois de février, on est en test à l'usine de Douai opérationnelle. Donc pour faire la manutention de pneus, donc c'est des pièces qui posent 12 à 15 kilos, hein, donc toutes les 60 secondes, toutes les 2 minutes en équipe de nuit. Et vraiment être capable pour la robotique de traiter ce problème-là qu'on n'avait pas réussi à régler en robotique traditionnelle, c'est un vrai plus aussi, parce que c'est un poste très pénible. Donc l'acceptation sociale sur des postes de ce type-là, il y a vraiment un très bon accueil à Douai.
Oui.
Après, on continue à travailler, nous, sur quelle interaction avec les équipes de Wondercraft, comment finalement, grâce à cette programmation facile des robots, comment les opérateurs autour, les conducteurs d'installation vont pouvoir interagir et eux-mêmes reprogrammer et utiliser ces robots de manière beaucoup plus facile que la robotique.
Oui, parce que c'est vrai que quand on est humain, on fait attention aux gens qui sont à côté de nous, on sait s'interrompre, là il faut que le robot apprenne tout ça. Comment on l'entraîne, ce robot? Est-ce qu'il a suivi les gestes d'un humain? Est-ce qu'il a été programmé dans des univers virtuels? Comment ça s'est passé?
Il y a deux niveaux de programmation, les équipes de Wondercraft vous l'expliquerez mieux que moi, mais il y a deux niveaux de programmation. Il y a le cervelet, c'est ce qui permet finalement de maintenir et de gérer comme nous un peu les mouvements de marche, de préhension de manière naturelle. Et ensuite, vous avez le cerveau qui va réagir et faire des tâches et être conscient de son environnement. C'est vraiment ça qu'on appelle les world models, ou IA, etc.
D'accord.
Et donc, pour cette dernière partie, on a utilisé des vidéos, des simulations complètes de l'environnement. On a des capteurs et des caméras et on a appris au robot à reconnaître un pneu, à reconnaître un convoyeur, etc. Et il est capable, avec cet apprentissage-là, ensuite de réaliser des tâches.
Et alors, expliquez-nous, Eric Merkel, pourquoi ces 350 robots qui vont être introduits dans une première phase, j'imagine que ça grossira encore, mais de ne pas rester juste à la jolie vidéo sur YouTube et de vraiment vous êtes dit, non, là il y a un vrai enjeu de compétitivité industrielle.
Le gros intérêt pour nous de travailler avec Wondercraft, c'était leur expérience côté médical. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes capable de porter des patients handicapés, vous avez une exigence de robustesse et de fiabilité, vous ne pouvez pas vous permettre de les faire tomber. Et contrairement à tous les acteurs chinois ou américains, etc., qui ont beaucoup d'essais erreurs, il y a régulièrement des accidents avec ce type de robot, c'est pas du tout le cas et c'est pas dans les gènes des équipes de Wondercraft. Donc cette notion de résilience dont on a besoin nous dans l'industrie, on la trouve chez Wondercraft. Et c'est ce qui nous permet d'envisager un passage à l'échelle en démarrant par des activités très simples de manutention, de port de charge, etc. Et ces 350 robots, on a une dizaine de familles de cas d'usage pour les déployer dans les ateliers.
Parce que justement, ce qui va faire votre richesse aussi pour l'intégration de ces robots, c'est les data. Parce que vous avez, on imagine chez Renault, le nombre de données industrielles que vous avez. Et ça, c'est crucial pour entraîner ces robots, puis ensuite, pour leur faire effectuer ces tâches.
C'est clair qu'effectivement, récupérer, faire les vidéos et scanner finalement les opérations, c'est un patrimoine que une entreprise de tech a du mal à obtenir naturellement. Et donc avoir ce partenariat et cette prise de participation qu'on a fait dans Wondercraft, je pense, va nous permettre d'aller très très vite et on espère de construire un champion européen.
Voilà, et vous réfléchissez déjà donc à d'autres tâches avec ce type de robot?
Exactement, le port de caisse, des manipulations ou des chargements de postes de tôlerie, de pièces coupantes et lourdes, etc.
Vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de verrou pour que ces robots humanoïdes soient présents dans ces centres de production?
Alors, sur des tâches relativement simples, non. Je pense que d'ici un an et en 2027, d'où notre objectif des 350. Après, il y a tout un tas de tâches où aujourd'hui, on n'a pas du tout de visibilité sur la capacité de ces robots à faire ça. Mm-hmm. Les manipulations avec énormément de dextérité, les câblages, toutes les pièces molles, etc. Là, on a quand même vraiment besoin de nos équipes opérationnelles.
Et toute dernière question, Eric Merkel, un enjeu de souveraineté aussi?
Oui.
Un constructeur alors français, mais qui rayonne au niveau mondial, mais avec un acteur français.
Wondercraft. Exactement. Et donc, on veut finalement, quelque part, industrialiser l'avenir et utiliser, que Wondercraft puisse utiliser Renault pour produire à l'échelle pour qu'on puisse faire profiter finalement tout le tissu industriel de cet outil de compétitivité.